Et je dis bien, ce sera qu'une introduction, parce que dans le cadre de ces sujets, il y a le fait de pouvoir parler de l'état d'esprit dans lequel doit se trouver le diacre, l'état d'esprit dans lequel doit se trouver l'ancien, comme les pasteurs, car il n'y a pas de hiérarchie dans l'Église, mais il y a différents services, différents ministères, et pour cela, nous devons recevoir de la part du Seigneur le secours pour continuer à accomplir ce qu'il nous demande de faire. Alors, ce soir, je voudrais simplement que nous puissions ensemble bien discerner qu'avant de faire quelque chose, il faut être conforme à la volonté de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, même si cela peut vous paraître étrange, dans cette première réunion, eh bien, nous allons essayer de découvrir, au travers de certains témoignages, puis de la parole de Dieu, ce qu'est, aux yeux de l'Éternel, être chrétien. Parce que c'est en tant que véritable chrétien que nous sommes appelés à servir le Seigneur. Nous venons de chanter d'ailleurs un chœur qui dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Le sacrificateur, il offre des sacrifices à Dieu et nous, nous savons que nous ne sommes plus sous la loi, mais les sacrifices que Dieu agrée, eh bien, c'est le fruit de lèvres qui confessent son nom. Et dans une certaine mesure, vous et moi, nous sommes appelés à être des adorateurs en esprit et en vérité. Alors, il faut déjà bien comprendre ce que c'est un chrétien selon la parole de Dieu. Et nous allons voir que ce n'est pas aussi évident que ce que l'on pourrait penser. Alors, je voudrais d'abord commencer par vous citer deux versets avant que nous ouvrions ensemble la parole de Dieu pour voir un texte sur lequel nous allons nous pencher. Le premier verset se trouve dans le psaume 100, je vais simplement le citer au verset 2. Il est dit « Servez l'Éternel avec joie ». Et dans la première épître de Pierre au chapitre 4 et au verset 10, il est dit que nous, en tant que bons dispensateurs au service de Dieu, nous devons mettre au service des autres le don que nous avons reçu de la part du Seigneur. Alors nous allons voir comment, justement dans les évangiles, certaines personnes ont été amenées à faire des progrès dans la manière dont ils étaient appelés à servir le Seigneur. Ce sont d'ailleurs trois personnes que nous connaissons bien, dont nous avons entendu parler très souvent. C'est une famille qui habitait à Béthanie. Et si je vous dis cela, immédiatement vous pensez à qui ? Vous pensez à Marthe, à Marie et également à leur frère Lazare. Alors le premier texte, ce sera dans l'évangile de Luc, au chapitre 10. Versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Puis dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, alors cela va paraître être une répétition, mais il y a une différence que nous allons nous efforcer de mettre en relief pendant la méditation de la parole de Dieu. Chapitre 12 de l'évangile de Jean, verset 1er. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Et on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mît en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Amen. La première chose que je voudrais dire ce soir et mettre en relief, c'est que dans l'Église, le service de Dieu n'est pas simplement le partage de celui que l'on appelle le pasteur. Et d'ailleurs, il est très important que dans l'Église de Jésus, il y ait une collaboration entre tous. Chacun de nous a reçu de la part du Seigneur quelque chose de particulier. C'est ce que Pierre déclare dans son épître et le verset que nous avons cité tout à l'heure le met en relief. Ayant reçu un don par la grâce de Dieu, nous voulons le mettre au service des autres pour la gloire du Seigneur. Et c'est quand il y a cette collaboration entre tous que l'œuvre de Dieu peut se développer et la gloire de Dieu aussi se manifester. Mais comme je l'ai dit au préalable, ce qui est important, c'est de savoir exactement ce qu'est un véritable chrétien. Cela, je le sais, peut vous paraître étrange que je commence par cela, parce que dans le fond de vous-même, vous vous dites « mais nous connaissons le Seigneur, nous avons fait une expérience avec lui et nous sommes nés de nouveau, nous lui appartenons et c'est très bien si cela est une réalité pour tous, mais nous avons besoin quand même de souligner ce qui est la base de toute forme de service dans l'Église de Jésus-Christ. Je vais donc commencer par un témoignage qui est tiré de l'histoire de l'Église. Un certain personnage qui a écrit l'histoire de l'Église a raconté le témoignage d'un diacre qui habitait la ville de Vienne. Et pourtant, cela se passait sous le règne de l'empereur Marc Aurèle. Ça veut dire que c'est entre les années 161 de notre ère et 180. Mais il y a eu une grande persécution dans l'année 177. Et dans la ville de Vienne se trouvait un diacre qui était en même temps un jeune homme encore au service de Dieu, très consacré, abandonné totalement entre les mains de Dieu, et la persécution l'a frappé de plein fouet. Dans cette période-là, en Europe du Sud, il y avait beaucoup de souffrance et ceux qui se disaient chrétiens connaissaient beaucoup d'épreuves, beaucoup de tribulations. Et lui, son nom est Sanctus. Certainement qu'il avait un nom de prédilection et qui lui convenait parce que c'était un véritable saint au service de Dieu. Et comme il servait Dieu de tout son cœur, alors il a été conduit devant le tribunal par un légat qui représentait l'autorité de l'Empire romain. Puis il y avait aussi des bourreaux qui étaient là, comme pour l'accuser. Et à chaque question qu'on lui posait, sa seule et unique réponse était celle-ci. « Je suis chrétien. » On lui a dit « Quel est ton nom ?» La réponse est « Je suis chrétien. » « Où tu habites ?» « Je suis chrétien. » « Quelle est la ville d'origine ?» « Je suis chrétien. » « Quelle est la nation de laquelle tu viens ?» Et la seule réponse toujours a été la même. « Je suis chrétien. » Et voyant que on ne pouvait pas le faire changer d'avis ni d'attitude, alors on a décidé de le faire passer par justement les tourmentes, la torture, et on l'a conduit jusque dans un amphithéâtre, traîné par des bêtes. Il a reçu des coups et finalement, eh bien, il a péri lamentablement sur une chaise en fer que l'on avait menée à blanc, tellement elle était chauffée par le feu, et l'odeur de la chair s'est répandue dans l'amphithéâtre. Et quand on lit cela, on est vraiment rempli comme d'effroi. Et on se dit, si on avait vécu en cette période-là, quelle aurait été notre réaction? Quelle aurait été notre attitude? Vous savez, à l'heure actuelle, dans les églises, quand on pose la question « Qu'est-ce qu'un chrétien ?», il y a toute une gamme de définitions qui peut être donnée. Et malheureusement, quand on entend certaines prédications, on se rend compte que ça va toujours dans la même direction. On parle de succès, on parle de prospérité, on parle de choses positives de cette manière-là. Et l'on dit, si vous croyez en Jésus, eh bien, Jésus va régler tous vos problèmes. On dit, si vous suivez le Seigneur Jésus, Jésus, eh bien, va répondre à tous les besoins de votre cœur. Et on parle de satisfaction personnelle. On parle d'accomplissement de soi. Et quand on entend cela, on est obligé de reconnaître, mais c'est en sens inverse de ce que l'Évangile nous présente en ce qui concerne le christianisme. Accomplissement de soi, c'est peut-être une philosophie moderne, c'est peut-être dû à la psychologie de nos jours qui caractérise les personnes de notre siècle qui veulent toujours aller dans le sens de la réussite. Mais Jésus, lui, nous a présenté un christianisme d'une autre manière. Et lui-même, elle a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix tous les jours, qu'il vienne après moi et qu'il me suive. Et voyez-vous, Sanctus était quelqu'un dont toute l'identité qui le représentait se cacher, se trouver dans la personne de Jésus-Christ. Son nom était caché en Jésus-Christ. Sa ville et tout ce qu'il était, eh bien tout cela, s'était caché en Jésus-Christ. Il ne connaissait pas autre chose que ça. Et ça me fait penser à l'expression utilisée par l'apôtre Paul et que vous connaissez bien, quand il dit « Christ est ma vie ». Et il ajoute « La mort m'est un gain ». Je vais continuer en vous disant que les premiers martyrs, à l'instar de Sanctus, eh bien, savaient d'une manière très claire ce que signifiait être chrétien. Mais aujourd'hui, bien, quand on pose la question, certains pensent que c'est une culture, une idéologie. Et à cause de cela, eh bien, on a perdu le véritable sens de ce que Dieu attend de quelqu'un qui se dit chrétien et qui met en évidence le nom de Christ, non seulement par un vocabulaire dans sa bouche, mais par un comportement, par une vie de consécration. Car s'il n'y a pas une consécration totale, absolue au Seigneur, alors vous savez ce que l'on devient ? Un système religieux. Et nous voyons à l'heure actuelle quelque chose qui est très particulier. Vous voyez, il y a des chrétiens, ou soi-disant chrétiens, qui s'imaginent que pour manifester ce qu'ils sont, eh bien, il faut qu'ils soient dans l'arène publique, manifestant et s'accrochant à certains cortèges pour contester certaines choses qui peuvent être mises en évidence dans ce monde et que nous reconnaissons tous comme étant mal. Parce que nous vivons dans cette période, vous et moi, où le bien est appelé mal et où le mal est appelé bien. Mais voyez-vous, ce que Dieu veut, ce n'est pas seulement que nous soyons dans l'arène à l'extérieur avec des manifestations, des banderoles et peut-être des pancartes en disant « Je suis chrétien et servant le Seigneur » parce que quelquefois nous pouvons avoir cette attitude extérieure et le cœur éloigné d'une véritable consécration à Dieu. Et à l'opposé, il y a ceux qui justement par la recherche d'une sainteté que j'appellerais sainteté de la chair, eh bien, vont se tenir à l'écart de ce monde et un peu à l'instar de ce que l'on appelle des moines, être reclus dans des forteresses où on ne veut plus entendre parler de quoi que ce soit. Mais de cette manière-là, on ne peut pas non plus être des témoins, des serviteurs de Dieu authentiques. Jésus a fait une prière que vous connaissez bien, et il a dit « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais je te prie de les préserver du mal. » Et finalement, ce que vous et moi nous sommes appelés à montrer au monde, eh bien, c'est une vie qui est vraiment concentrée sur la personne du Seigneur et notre manière de vivre, notre manière d'être chrétien va parler beaucoup plus que nos œuvres ou ce que nous pensons être l'œuvre de Dieu. Parce que les gens sont à l'heure actuelle très surpris de voir des chrétiens de nom, mais dont la vie ne correspond pas à ce que le Seigneur Jésus lui-même nous a montré. Vous en conviendrez avec moi, se dire chrétien et vivre dans l'adultère, c'est une contradiction. Se dire chrétien et voleur, c'est une contradiction. Se dire chrétien et menteur, c'est une contradiction. La raison pour laquelle la Bible appelle les chrétiens la lumière du monde, c'est parce qu'en eux se trouve caché, mais d'une façon glorieuse, la puissance de la vie de résurrection de Christ. Parce que sans cela en nous, nous ne pouvons pas être des témoins, et encore moins pouvons-nous servir dans l'Église de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi les textes que nous avons lus tout à l'heure et je vais y revenir dans un instant. Mais permettez-moi d'aller un peu plus loin. Nous pouvons nous glorifier de ce nom de chrétien. Cependant, dans la Bible, il n'y a que 3 versets qui citent cette expression-là. Et d'ailleurs, ce n'est que 10 ou 15 ans après la création de l'Église, le jour de la Pentecôte, par la puissance du Saint-Esprit, qu'à Antioche, comme vous l'avez lu certainement dans le livre des Actes des Apôtres, on a donné pour la première fois à ceux qui suivaient le Seigneur et aux disciples de Jésus le nom de chrétien. 2 fois seulement on parle de chrétien dans le livre des Actes des Apôtres. Et l'autre verset qui parle de chrétien se trouve dans l'épître de Pierre où ce dernier dit « Si vous souffrez en tant que chrétien, alors soyez heureux parce que finalement c'est un honneur que de souffrir pour la cause de Jésus-Christ. » Mais il y a un autre détail. Je me suis aperçu qu'on a mis complètement de côté par la faute des traducteurs. Suivez bien ma pensée ici. On a mis totalement de côté une autre expression qui désigne les véritables chrétiens, et le terme grec, je sais que la plupart d'entre vous le connaissez, je ne connais pas le grec et je ne suis pas savant dans ce domaine, mais nous avons des outils qui nous permettent quand même de fouiller un peu en profondeur. Le terme doulos, qui veut dire esclave, se trouve 125 fois mentionné dans les évangiles, 125 fois mentionné dans le Nouveau Testament. Et esclave, ça fait quand même réfléchir. Alors, les traducteurs ont choisi, pour la plupart, inspirés seulement par la fameuse traduction, la Vulgate, c'est-à-dire une traduction en latin, et où précisément, on avait déjà mis en évidence le terme de doulos en le changeant quelque peu, et au lieu de doulos, on a mis servus, et ce qui a donné l'idée au traducteur, parce que ça semblait plus facile, plus direct, plus correct, de donner le terme serviteur. Alors, au lieu de trouver 125 fois, comme dans le texte original, doulos, on trouve une grande partie de ces versets où cette expression est soulignée, on trouve le mot serviteur. Mais regardez la différence. Un serviteur, il a un travail qui peut lui être imposé ou désigné, mais il a aussi le choix de choisir le travail qu'il veut, de choisir le service qu'il veut. Il a aussi le choix de servir le maître qu'il veut, parce qu'il est indépendant et il est libre. Mais l'esclave, il ne peut pas faire cela. L'esclave, dans la pensée de l'époque, c'était quelqu'un qui appartenait, qui était la propriété de son maître. Or, vous avez remarqué avec quelle aisance, je dirais presque avec quelle facilité, vous et moi, nous disons « Jésus est Seigneur, il est le Maître, il est souverain ». Mais est-ce que nous comprenons bien ce que ça veut dire? Parce que s'il est Seigneur, s'il est notre Maître, savez-vous ce que ça veut dire, mes frères et sœurs? Ça veut dire que nous ne nous appartenons plus. Et la Bible, d'ailleurs, dans une des épîtres de Paul, le déclare. Et il dit que nous sommes là dans l'amour pour le Seigneur, dans le désir de lui offrir notre corps, de lui offrir notre être tout entier. Pourquoi ? Parce que autrefois, nous étions sous un autre maître. Et qu'est-ce que nous faisions? Nous offrions notre corps pour en arriver à des choses dont nous rougissons aujourd'hui et dont nous avons honte aujourd'hui. Pas vrai, frères et sœurs? C'était ce qui nous caractérisait, parce que c'était le péché qui régnait en nous, parce que nous avions livré nos membres à ce maître qui nous a traînés dans la boue, et c'est à juste titre que l'on peut dire, qui nous a rendus esclaves par toutes sortes de vices, de passions et de choses honteuses. Mais Paul dit, de la même façon que vous aviez livré vos membres à ce péché pour en arriver à produire des choses honteuses, maintenant, livrez vos membres à qui? Eh bien, au Seigneur. C'est un sacrifice qui n'en est pas un en même temps. Parce que ce que je donne au Seigneur, et ça c'est très important, je le fais par amour, mais pas par obligation. Je voudrais ici encore rappeler quelque chose. Mes frères et sœurs, dans l'Église, il y a toujours ces deux tendances. Je ne parle pas de l'Église locale, que je ne connais pas encore vraiment comme il faut. Mais d'une manière générale, les deux tendances sont le légalisme ou le laxisme. Le légalisme, c'est tu feras ceci, tu feras cela, tu feras cela. C'est quelque chose que l'on impose, même en utilisant parfois la parole de Dieu. Mais le laxisme, c'est « Ah, mais Dieu est tellement bon que je peux me permettre de vivre comme je l'entends. » Mais ça, c'est faux. Parce que si je comprends ce que le Seigneur a fait pour moi, et surtout si je suis au bénéfice de la grâce de Dieu, alors je ne peux pas transformer cette grâce en dissolution. Mais c'est la réponse d'un cœur qui a été changé, qui se donne, qui se livre, qui s'abandonne, qui se donne entre les mains du Seigneur, lui permettant d'agir par sa puissance au travers de moi, parce que le service, ce n'est pas ce que je fais, c'est ce que Dieu fait en moi et au travers de moi. Si c'est ce que je fais, je vais en tirer une gloire. Peu importe ce que je vais faire. Vous savez, il n'y a pas de service, je vais employer le mot, de ministère, qui soit moindre par rapport à d'autres. Il y a effectivement dans la parole de Dieu mentionné le ministère de la parole, mais il y a d'autres services dans l'Église, d'autres ministères, et nous avons besoin d'une collaboration. Sans cette collaboration, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir une église que j'appelle pyramidale, avec un pasteur à la pointe qui donne des ordres, qui dirige, qui commande. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce qui est important, c'est un travail collégial. C'est-à-dire où il y a cette organisation telle que la Bible la présente. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas tout développer ce soir. Et j'ai bien dit, c'est une introduction. Nous étudierons ce que sont les diacres, leurs fonctions, et comment ils peuvent être des leaders au sein de l'Église. Nous étudierons ce que sont les anciens, et comment eux aussi, par le moyen aussi de l'enseignement, pas forcément sur l'estrade, mais enseignement auprès des personnes, mais aussi peut-être sur l'estrade, tout cela, eh bien, contribue à quoi? À rendre l'Église forte, mais pourvu que nous soyons dans cette pensée, c'est pas moi qui le fais. Parce qu'il n'y a rien de plus terrible que l'orgueil que l'on a tendance à appeler spirituel. Et je me demande qu'est-ce qu'il y a de spirituel dans l'orgueil. Rien qui soit plus néfaste que cela. Je ne fais pas pour me faire voir, je fais parce que j'aime Dieu, et même si personne ne le voit, personne ne s'en rend compte, il me suffit de savoir que c'est Dieu qui agit au travers de moi. Vous savez, dans la création, il y a un certain enseignement. Savez-vous, mes frères et sœurs, qu'il existe des plantes que jamais aucun œil humain n'a eu la possibilité de voir? Il y a, par exemple, sur le sommet de certaines montagnes, des toutes petites fleurs insignifiantes que personne n'aura l'occasion de cueillir ou de voir. Personne. On pourrait se poser la question, mais pourquoi donc existe-t-elle ? Pour Dieu. Pour Dieu. C'est la gloire de Dieu. Alors vous savez, mes frères et sœurs, c'est pareil dans l'Église. Il y a des choses qui sont visibles, il y a des choses qui sont invisibles. Mais Dieu voit tout. Et Dieu est honoré par tout ce que l'on peut faire, pourvu que nous soyons dans le bon état d'esprit. C'est la raison pour laquelle j'en viens maintenant à ce texte que nous avons lu, ces deux textes que nous avons lus, et qui paraissent identiques. Avez-vous remarqué, dans l'évangile de Luc, eh bien, le Seigneur arrive dans ce petit village de Béthanie, et il y a un absent. Cet absent, vous l'avez certainement constaté, c'est Lazare. Il n'est pas là. Il n'est pas là parce que peut-être ça ne revêt pas pour lui une importance formidable que Jésus vienne dans sa maison. C'est un ami, mais bon, il a une certaine indifférence. Il y a Marthe, elle sert, elle est présente, elle travaille, mais avec quel esprit ? Avez-vous remarqué ce qu'elle dit ? Seigneur, ça ne te fait rien de voir que je suis seule à servir ? Et elle, là, pourquoi ne m'aide-t-elle pas ? Et vous connaissez la réponse de Jésus. Vous savez, on a tendance à mépriser Marthe à cause de ses paroles et puis de son service. Mais dans une église, il en faut des Marthe. Il en faut. Et ce n'est pas le problème qu'elle servait, qu'elle travaillait. Ça, c'était pas ça le problème. Mais c'est l'esprit dans lequel elle le faisait. Parce qu'il y avait une sorte de concurrence. Et elle. On a toujours tendance à essayer de regarder aux autres. Et je vous ai, il y a quelque temps de cela, parlé de Pierre et de Jean. Vous vous souvenez, un jour Jésus a dit à Pierre, « Voilà, quand tu seras vieux, quelqu'un te scindra et te mènera où tu ne veux pas aller. » Évidemment, pas bien agréable à entendre. Surtout que la Bible dit que Jésus lui parlait de cette manière-là pour lui parler de la mort dont il le glorifierait. Alors, entendre parler de ça, c'est pas bien agréable. Et puis, Jésus venait à peine de terminer de lui dire ces choses-là, que Pierre entend des pas derrière lui, ce sont les pas de Jean qui s'approchent, exactement comme Marthe, la même attitude. Et lui, Seigneur, qu'est-ce qui lui arrivera ? Et la réponse a été, que t'importe, toi, suis-moi. Mon frère, je ne sais pas ce à quoi Dieu t'appelle dans l'Église. Je sais une chose, ce n'est pas à moi à te désigner. N'as-tu pas lu dans la parole de Dieu ? Jésus parle très clairement et il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi. Il y a des choses que le Seigneur peut nous faire sentir profondément dans notre cœur. L'appel doit venir de lui, pas de notre homme, mais de lui. Et lui, eh bien, quand il parle à notre cœur, il met des convictions profondes. Et il nous amène alors petit à petit, même si nous mettons du temps quelquefois à répondre, à accomplir, à faire ce que Dieu attend de nous. Vous savez, mes chers frères et sœurs, je voudrais simplement mettre en relief cela. Le temps est court et nous allons nous présenter devant le Seigneur. Il n'y a pas de condamnation pour les enfants de Dieu. Vous savez qu'il existe deux trônes, le grand trône blanc Il n'est pas pour nous, mes frères et sœurs. Non, nous ne passerons pas là-devant. Ce grand trône blanc, il est réservé pour les gens de ce monde qui ne veulent pas entendre parler du Seigneur et sont en contradiction avec la volonté de Dieu. Ça, c'est pour le monde. Et un jour, ils devront rendre des comptes. Et ce sera terrible, parce qu'il n'y aura aucune possibilité de salut pour eux. C'est une condamnation irrévocable, terrible. Nous devons penser à cela. Mais nous, les chrétiens, nous devrons passer devant le tribunal de Christ. Et il est dit que nous devrons rendre des comptes. Non pas que nous aurons perdu le salut. D'ailleurs, la Bible dit que certains vont être sauvés comme étant arrachés du feu. Moi, j'ai entendu un jour un chrétien, j'ouvre une petite parenthèse, il m'a dit, « Oh, ben moi, vous savez, pourvu que j'ai un strapontin dans le ciel. » C'est de l'humour mal placé, vous ne croyez pas? Parce que un jour, Jésus va se présenter comme cela, ou plutôt nous, nous allons nous présenter devant lui. Et savez-vous, il nous dira, « J'ai fait tout ça pour toi. Toi, qu'as-tu fait pour moi? Qu'as-tu fait pour moi ?» Si certains sont imaginés qu'être chrétien, c'est venir à la réunion, assister, entendre le message, donner l'impression que finalement, on est là, on a un certain témoignage, et puis on repart comme cela. Eh bien, mes frères et sœurs, c'est faire fausse route. C'est un engagement à être chrétien. C'est une vie, être chrétien. C'est un service d'adoration, être chrétien. C'est être là, à l'écoute de ce que Dieu nous demande. Des fois, ça peut être peu de choses. Peut-être ça nous paraît insignifiant, mais vous savez, c'est seul le Seigneur qui peut développer la petite chose qu'il fait au travers de nous et la rendre vraiment grande et merveilleuse. C'est pourquoi, ici, eh bien, nous nous rendons compte que ce qui n'allait pas chez cette personne, c'est qu'elle servait par ses propres forces, par sa propre volonté, sans avoir eu cette révélation de la part du Seigneur, et elle était pleine de bonne volonté, mais s'occupait aussi trop des autres. Elle faisait une comparaison toujours avec les autres. Et le Seigneur l'a remis en place très gentiment. Mais il y avait Marthe, et avec plutôt Marie, sa sœur. Et Marie, avez-vous remarqué, elle était dans l'adoration. Et c'est vrai que le Seigneur a souligné ce qu'elle était là. Il a dit, mais elle a choisi la bonne part. Elle écoute ma parole, elle est à mes pieds. Oui, mais mon but ce soir, c'était de vous montrer comment ces trois personnes, elles ont été changées par la puissance de la vie de résurrection. Parce que entre ces deux scènes, il s'est passé un certain événement que vous connaissez aussi bien que moi. C'est qu'à un moment donné, Lazare est tombé malade, gravement malade. Et quand il était dans cette maladie, il y a eu un appel vers le Seigneur, « Viens, celui que tu aimes, ton ami, eh bien, il est malade. » Et Jésus ne s'est pas déplacé pour autant très rapidement. Parce que le Seigneur voulait non pas faire de Lazare quelqu'un qui était amélioré. Vous savez, on pense parfois que l'on peut devenir meilleur. Et on parle souvent de devenir meilleur par l'effort de notre volonté, par justement, comme cela, un désir profond. On se rend compte tous qu'on est en dessous du niveau que Dieu attend. Alors on dit, Seigneur, je veux devenir meilleur. Je vais vous dire, je sais que ça va en choquer quelques-uns, mais le Seigneur ne peut pas nous rendre meilleurs. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que ce qui est tordu ne peut pas être redressé. Alors vous allez dire, mais alors quel espoir? Comment est-ce qu'on va faire? Ce n'est pas qu'il veuille nous rendre meilleurs, il veut faire de nous quelqu'un de nouveau. Par la puissance de la vie de résurrection. Qu'est-ce qui s'est passé? Lazare, finalement, est mort. Jésus a attendu ce moment-là parce qu'il ne voulait pas d'un Lazare amélioré, il voulait d'un nouveau Lazare ressuscité d'entre les morts par la puissance de Dieu. Que sommes-nous, vous et moi? Eh bien, nous sommes des gens qui avons connu le Christ ressuscité, d'abord crucifié, mais aussi ressuscité. Il vit en nous. Et tout ce que nous pouvons faire, même la moindre des choses, nous ne la faisons que par la puissance de la vie de résurrection, que moi j'appelle la puissance du Saint-Esprit en nous. Parce que quand est-ce que le Saint-Esprit s'est manifesté? Quand Jésus est mort sur la croix, ensuite il a été enseveli, ensuite il est ressuscité, ensuite il est monté au ciel, et là alors, comme son œuvre était parfaitement accomplie, le Saint-Esprit a été envoyé. Et les gens qui étaient là dans la chambre haute, remplis du Saint-Esprit, ont été changés. Je vous ai parlé de Pierre tout à l'heure. Regardez la différence. Pierre, ce jour-là, se lève, parle avec une telle puissance que 3000 âmes se tournent vers le Seigneur. Et cet homme, on sent bien, il n'est plus le même. Finalement, dans notre vie avec le Seigneur, avec notre marche avec le Seigneur, il y a des moments où nous retombons sous cette action, cette force de la chair, de notre propre volonté. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'être renouvelés dans la puissance de la vie de résurrection, parce que cela nous donne un dynamisme différent. Regardez le changement dans la deuxième scène. D'abord, Lazare n'y était pas dans la première. Mais dans la deuxième, il est là. Il est dit, Lazare était un de ceux qui étaient assis avec le Seigneur à table. Vous savez qu'un des noms donnés aux premiers chrétiens, c'était les amis assis à la table du Seigneur. C'est-à-dire que Lazare, maintenant, il savait la valeur de la communion avec le Seigneur. Avant, il était indifférent. Si nous croyons faire la moindre des choses dans l'Église, sans avoir cette communion avec le Seigneur, nous nous trompons. Et certains passent des journées entières sans même chercher le Seigneur. La méditation de la parole de Dieu, c'est très rapidement fait. Une sorte de devoir que l'on accomplit presque par force. Non pas par amour pour lui, mais on plonge le regard dans la Bible. On lit comme cela, et puis on dit, ah, j'ai fait mon devoir. J'ai lu un chapitre, deux chapitres, un verset, deux ou trois versets, et puis on croit que l'on a accompli son devoir. Mes frères et sœurs, c'est quand on a le contact avec le Seigneur, dans notre chambre, dans notre bureau, je ne sais pas, mais là où on le recherche, lui, pour ce qu'il est, cette communion réelle, c'est là qu'il se manifeste. Voyez-vous, le premier miracle, c'est la joie de la communion avec le Seigneur qui va se traduire ensuite par la joie de la communion avec les frères et sœurs qui partagent la même expérience. Et c'est ce que nous avons besoin de retrouver dans l'Église, une vraie communion qui va découler de la communion que chacun d'entre nous, nous aurons avec le Seigneur. Et le deuxième personnage, Marthe, elle servait en murmurant, en regardant aux autres. Regardez dans la deuxième scène, plus de murmures, ça a disparu. Elle sert le Seigneur, elle le fait avec joie, parce que c'est désormais le but de sa vie, et elle ne s'intéresse plus, disons, à ce que peuvent faire les autres, en tous les cas, elle ne veut plus faire de comparaison. Elle sait ce à quoi elle est appelée, elle le fait joyeusement, comme nous avons cité ce premier verset de ce psaume 100, le verset 2, où il est dit « Servez l'Éternel avec joie ». Plus de murmures, mais elle sert le Seigneur. Elle s'occupe de rien d'autre. Elle sert le Seigneur. On voit bien la transformation. Regardez la transformation de Marie. Elle écoutait la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle offrait au Seigneur? Vous connaissez ce verset de l'Ancien Testament où David parle en ces termes, je crois. Et il dit, « Seigneur, je ne voudrais pas t'offrir un sacrifice qui ne me coûte rien. » Qui ne me coûte rien. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé la réunion en vous parlant de ce qu'est un véritable chrétien, de ce qu'est aussi un esclave, et nous sommes esclaves de Jésus. Nous lui appartenons, et vous voyez, là, Marie, elle a compris que écouter seulement, ce n'est pas suffisant. C'est comme on dit très souvent, on peut écouter, mais si on ne met pas en pratique, ça sert à quoi? Et offrir à Dieu cette adoration que nous lui devons. Nous sommes appelés à être des adorateurs en esprit et en vérité. Mais vous voyez, l'adoration, ce n'est pas quelque chose comme cela, de, j'allais dire statique, ou je ne sais pas comment m'exprimer pour bien mettre en évidence le fond de ma pensée. Mais cette femme a compris que vraiment il y avait un prix à payer, il y avait quelque chose à faire. Vous savez, servir le Seigneur, ça coûte. Est-ce que nous sommes prêts à payer ce prix-là? De l'incompréhension, de l'injustice, la maltraitance peut-être, mais peu importe. Tout ce que l'on fait par amour pour le Seigneur, comme elle, elle l'a fait. Elle a brisé le vase. Notre frère nous a fait chanter ce petit cœur. Je ne suis qu'un vase, un vase d'argile. Mais n'oublions pas quand même, toutefois, dans la Bible dit que dans l'Église, il y a des vases d'honneur et nous sommes des vases d'honneur. Les vases vils ou d'un usage vil, la parole de Dieu en parle, mais ce n'est pas dans l'Église. Il faudrait bien se rendre compte du contexte. Dans l'Église, il y a des vases d'honneur. Nous ne sommes que des vases d'argile, mais vases d'honneur, parce qu'en nous habite quelque chose qui est important. C'est la raison pour laquelle Christ doit être caché en nous, et nous, nous devons être cachés en lui. Et ce que nous lui offrons, eh bien, c'est le résultat de cet amour dont nous sommes les bénéficiaires, mais aussi c'est l'expression de notre amour. C'est pourquoi une église qui est devenue religieuse n'exprime plus cela. Et alors ça devient traditionnel, ça devient mort, terne, ça ne devient que des formes. Il faut que le Seigneur nous délivre de cela, pour que nous soyons tous des cœurs brûlants pour le Seigneur. Et vous savez, quand on brûle pour le Seigneur, ça doit se sentir, ça doit se voir. Eh bien, voilà, en introduction de ce sujet que nous développerons en passant par tous les ministères desquels j'ai parlé tout à l'heure, nous demanderons au Seigneur de nous guider afin de mettre bien cela en place. Mais pour le moment, que Dieu nous aide à comprendre qu'il doit régner dans notre vie et dans notre cœur par son esprit. Que Dieu vous bénisse. Peut-être je laisse le frère nous diriger dans la prière.